Tov, shalom aleichem. Aujourd'hui, nous continuons notre développement concernant la préparation de Pessah, Birshut Arav. Et nous rappelons juste que le sujet principal dans le judaïsme, c'est la sortie d'Égypte. La raison en est simple. Celui qui n'est pas libre ne peut pas agir dans ce monde. C'est-à-dire que tous les degrés que nous sommes venus faire dans ce monde exigent une liberté. Si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas être vous-même, vous ne pouvez pas d'ailleurs travailler ni retrouver votre identité, donc c'est impossible de commencer à retrouver ni à faire ce que vous êtes. Première des choses donc, c'est de sortir d'Égypte. Et dans la sortie d'Égypte, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est la matrice de toutes les possibilités de sortir d'Égypte. Autrement dit, si j'étudie cette notion de sortie d'Égypte comme il faut, je suis censé récupérer des éléments qui vont m'aider dans ma vie à me libérer de toute forme d'Égypte, donc à me permettre d'être identité, de retrouver mon identité, d'être moi-même, et d'agir selon ce que moi, je suis venu faire dans ce monde. Au niveau individuel, c'est vrai, au niveau collectif, c'est la même chose. La nation d'Israël, tant qu'elle n'est pas sortie d'Égypte, elle ne peut pas savoir qui elle est et pourquoi elle a été créée, voulue par le Créateur. La sortie d'Égypte a donc libéré le peuple d'Israël, pas seulement de l'esclavage de l'Égypte, mais de toute forme d'esclavage qui empêche, qui embête, l'homme, la nation, d'être ce qu'elle est. À partir du moment où on sort de ça, on est déjà dans une forme extraordinaire de pouvoir commencer à agir. On appelle ça Ben Chorin, vous l'avez ici, Chérout en hébreu, et les sages nous disent qu'au moment du don de la Torah, les sages nous disent de ne pas lire Chérout, qui veut dire gravé, que Dieu a gravé en fait des paroles sur des tables, mais Chérout dit Élie, liberté. Tu as été libéré, en fait, de toutes les contraintes de cette nature. Je voudrais vous dire que l'Égypte, c'est la nature. L'Égypte, ce sont les lois naturelles. Sortir d'Égypte, c'est dépasser les lois de la nature. Un exemple, il n'est pas naturel de transformer de l'eau en sang. Ça n'existe pas. Pourquoi l'Éternel fait que l'eau devienne du sang? Pour montrer que c'est lui qui gère cette nature, donc il en est le créateur. Pharao et toute l'Égypte, ce sont des esclaves de la nature. Donc ils servent le temps. Ils servent les lois de ce monde. L'une des lois de ce monde, c'est le temps. Donc ils ne peuvent pas faire autrement que d'être soumis aux valeurs du temps. Les valeurs du temps, elles ont une réalité dans ce monde. C'est-à-dire, si je devais transformer le temps et lui donner une forme animale, c'est le bélier. Ce n'est pas par hasard que le signe astrologique du mois de Nissan, donc de la sortie d'Égypte, c'est le bélier. Donc c'est le premier des astres de l'année. Parce que tu peux tout transformer en tout. Ça dépend comment tu vois. Un peintre va dire que le mois de Nissan, c'est un blanc. Un musicien va dire que le mois de Nissan, c'est un do. Et un animal va dire que le temps Nissan correspond dans le monde animal à un bélier. Tu comprends? Et ça, c'est en réalité ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné comme information à Adam Arishon, puis à Abraham Avinu, qui a écrit le Sefer HaYetzirah, et qui sait faire correspondre tous les degrés de ce monde. D'accord? Tu ressembles à un animal. À quel animal tu ressembles le plus? Tu dois savoir quel est l'animal qui correspond à ta nature. Quelle est la note de musique qui correspond à ton rythme? Quelle est la couleur qui correspond à ta vie? Quel est le jour dans la semaine où tu es le plus proche? Pardon? L'intérêt, c'est de savoir en réalité vers quelle direction, vers quelle façon d'agir, tu es le plus fort. Par exemple, si tu aimes le dimanche, je pourrais te dire que tu es de la sphira de chesed, de la bonté. Donc, ce que tu es venu faire dans ce monde, c'est de partager, c'est de donner. Si le mardi est difficile pour toi, c'est peut-être parce que justement tu dois faire un travail au niveau de ton équilibre, et ainsi de suite. Il y a une correspondance dans tout. Donc vous pouvez faire un tableau sur lequel il y a des cases à l'infini. Ça peut être une lettre, ça peut être une couleur, ça peut être un animal, ça peut être un temps, ça peut être une forme, ça peut être... Vous comprenez? Et c'est toujours une même... Je parle de la même chose. Donc si par exemple je parle à un scientifique, moi je peux parler dans mon langage de Torah, et lui va parler dans son langage scientifique, mais en réalité, on parle de la même chose. Lui, il va utiliser ça avec des mots qu'il connaît dans sa science, et moi, je vais utiliser ça avec des mots que je connais dans la Torah. Mais on parlera de la même notion, vous comprenez ça? C'est facile à comprendre. Ok.
Pourquoi les saints vont écrire du temps?
Parce que justement, je suis en train de l'expliquer, au début du cours, donc j'ai pas encore commencé, je suis en train juste d'introduire le Inyan. Okay. Les esclaves du temps, ça s'appelle Ovdei Kochavim ou Mazalot. C'est-à-dire ce sont des hommes qui servent les étoiles et qui servent les astres. Donc le premier astre de l'année, okay, le premier signe astrologique, c'est le bélier. Et le bélier correspond en réalité à l'Égypte. C'est-à-dire que si tu approfondis l'Égypte, tu vas voir là-bas comme animal, un bélier. Qu'est-ce que c'est que le bélier? Bien, le bélier, c'est un animal qui ne supporte pas, pendant qu'il mange, qu'un autre bélier mange en même temps que lui. Même si tu mets deux assiettes de nourriture à deux béliers, ils vont se battre alors qu'ils ont tous les deux à manger. Jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer et peut-être que aucun des deux va manger. Et il y a un système. Qu'est-ce que ça vient me donner comme information? Et je ne supporte pas que mon ami réussisse. Il y a des gens comme ça, ils sont jaloux. Même si toi tu réussis, tu ne supportes pas que l'autre réussisse. Donc tu vas tout faire pour le descendre, alors que toi il ne te manque pas. Alors cette notion de bélier, elle me donne une information très importante dans ma vie. Alors les Chachamim vont maintenant développer le bélier. Et vont nous dire, attention, si tu sers le mois de Nissan en restant en Égypte, tu vas rester un bélier. Donc qu'est-ce que c'est l'Égypte maintenant? L'égoïsme. L'égoïsme. C'est-à-dire, je ne veux pas que l'autre réussisse. Parce que je suis tombé dans le piège du bélier. Je suis coincé dans un système qui ne me permettra d'être avec de l'amour pour mon prochain.
Pour celui qui est bélier, il est content.
Alors justement, c'est le signe identificateur du bélier, et il faut faire un tikkun. Il faut sortir de ça, il faut s'élever. Alors, si on est bélier et qu'on a fait un travail sur soi, eh bien, on est censé normalement se transformer. Il faut justement pas rester comme ça. D'accord? C'est un travail à fournir. Alors, il n'y a pas que le moi. La Gemara dans le traité de Shabbat à la page 75 dit qu'il y a le moi. Il y a le jour, il y a l'heure, le jour ou la nuit, et tous les degrés. Si tu es né un mardi, tu es comme ça. Si tu es né un mercredi. Mais le peuple d'Israël, étant donné qu'il est au-dessus de ses actes, eh bien il peut s'en sortir. C'est pour ça qu'on dit « En mazal les Israël », et c'est le travail qu'on doit fournir après ça. Bien sûr, je ne suis pas en train de parler d'Israël seulement, je suis en train de parler du cosmos et de l'univers et de toute l'humanité. Israël, c'est juste un exemple pour l'humanité tout entière, qu'on peut dépasser les lois de la nature. C'est pour ça que pour l'instant, c'est Israël qui est sorti d'Égypte, mais notre vœu, c'est que toutes les nations, un jour, sortent de leur Égypte. Pour libérer, en fait, l'humanité tout entière. Ce que vous comprenez. Donc, en réalité, ce que la sortie d'Égypte vient me donner comme information, c'est qu'on est capable de dépasser tout ça. Donc, il faut que je dépasse le bélier qui est en moi. Alors, même si je suis pas du signe du bélier, parce que je ne suis pas né le mois de Nissan, pas grave. Au moment où le mois de Nissan arrive, j'ai un ennemi. Et quel est cet ennemi? L'égoïsme. C'est-à-dire que Shabbat, c'est Rosh Chodesh. Eh bien, à partir de ce Shabbat, entre dans l'univers un bélier. Enfin, un bélier qui va vous tomber sur la tête. C'est-à-dire une notion qui va vous pousser à penser qu'à votre ventre, à vous, qu'à votre vie privée, individuelle. Et il va falloir sortir de cette contrainte. Et si vous arrivez à transformer ce degré, vous allez sortir d'Égypte. Sinon, chas de shalom, vous tombez dans le piège du bélier et vous restez en Égypte. Donc chaque année, le même programme se représente dans l'univers. Et j'ai le même combat face à une autre forme d'égoïsme qui s'est réveillée cette année chez moi. Parce que j'ai changé depuis l'année dernière, donc j'ai un nouveau combat. Mais maintenant que vous le savez, vous avez cette information, ça va vous aider. Il va falloir donc, à partir de Shabbat qui vient, prendre en compte ce danger qui est dans l'univers, qui s'appelle les lois de la nature, et le désir donc naturel, bat-toi et il faut que tu sauves ta vie. Et il y a plein de jeux comme ça maintenant, de partout, des jeux télévisés, des jeux de machin, on te met dans un endroit, tu peux tout faire pour survivre, même si tu dois massacrer l'autre. Mais c'est exactement ça. Et ça, c'est le mois de Nissan. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Donc, je suis en train de vous donner maintenant une image beaucoup plus subtile de la sortie d'Égypte. Comment est-ce que je vais pouvoir sortir d'Égypte cette année? En étant dans la bonté. En voyant que mon prochain, il a un problème et vouloir l'aider. C'est pas seulement sortir d'un pays, vous comprenez? C'est beaucoup plus fin. Et au fur et à mesure que vous allez grandir dans votre vie, vous allez en fait comprendre ce genre de message de plus en plus subtil. Et combien de formes comme ça il y a d'Égypte? Une infinité. Alors maintenant je vous ai parlé juste du bélier avec de l'égoïsme, mais je peux vous sortir une autre forme d'Égypte. Par exemple celle de ne pas savoir vous exprimer. C'est aussi de l'Égypte. Donc pour corriger le manque de savoir de s'exprimer, il va falloir que je fasse un effort dans mon expression. Pour sortir d'Égypte. Encore une autre forme d'Égypte. Et je peux vous en citer plein. Et donc, la sortie d'Égypte, si je ne la comprends pas, celle qui s'est passée avec les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, qu'est-ce que je vais garder comme image de cette sortie d'Égypte? Des bonhommes qui sont sortis d'un pays où ils étaient esclaves. Alors, on change de niveau maintenant. Et on comprend que ce n'est pas pour ça que la Torah est venue nous raconter cette histoire. Parce que si c'est à ce niveau-là qu'on reste, c'est malheureux. La Torah, elle vient nous donner en fait une histoire, mais cette histoire, elle a des codes. Et tant que je n'ai pas compris les codes de cette histoire, je ne peux pas utiliser cette puissance pour m'en sortir moi-même. C'est clair. Vous avez l'air heureux, c'est bien. Et donc, en réalité, pourquoi je dois être libre? Maintenant, vous comprenez plus. Parce que tant qu'il y a un degré qui m'empoisonne la vie, un degré qui me cloisonne, qui m'enferme dans un cadenas, qui me cadenasse, eh bien, je ne peux pas agir. Moshe Rabbeinu, qui représente le peuple d'Israël, dans un bonhomme, eh bien, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va le voir, qu'est-ce qu'il lui dit? Avant même la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'a pas encore lieu. Il n'y a qu'un rendez-vous entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit? Première parole. Shal na'alecha na'al raglecha. Okay, enlève tes chaussures. Non. Na'alecha et kadna. Man'oul. Man'oul, c'est un kadna. Shal na'alecha, enlève tes kadna de tes pieds. Autrement dit, tant que tu es cadenassé, tu ne pourras pas ni t'en sortir toi, ni encore moins sortir les enfants d'Israël. Donc c'est ça qu'on doit faire. Vous avez des cadenas dans votre vie. Et chacun d'entre vous a des cadenas. Certains cadenas, c'est la peur. Certains cadenas, c'est l'égoïsme. Certains cadenas, c'est votre dispersion d'esprit. Certains cadenas, c'est parce que vous avez subi des traumatismes lorsque vous étiez jeune. Certains cadenas, c'est parce que vous avez des gens autour de vous qui vous empoisonnent la vie et vous n'arrivez pas véritablement à vivre dans la liberté. Certains cadenas, c'est... Et je peux continuer jusqu'à demain matin. Tant que tu ne te libères pas de tous ces cadenas-là, Et ça prend du temps. Ça peut être une vie entière. Eh bien, tu ne pourras pas réellement servir à Kadosh Baruch Hu dans ce monde tel que tu devrais le faire.
Il y a plein de clés générales.
Ok ? Il y a des clés générales, mais il faut être assez puissant pour pouvoir toucher en réalité la formule qui englobe toutes les formules de sortie. Et cette formule, elle a un nom. C'est le tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. À partir du moment où on touche le nom de Yud, Ke, Vav, Ke, le nom d'Hachem, et qu'on sait ce que ça veut dire, et qui il est, et comment il agit, eh bien on peut sortir de tout. Et c'est pour ça que dans la sortie d'Égypte, il y a marqué, c'est ce nom-là, Ani, Yud, Ke, Vav, Ke, Ani Velo Malach, Ani Velo Saraf, Ani Velo Shaliach. Personne d'autre que moi. Ni un messager, ni un ange, ni quoi que ce soit. Ani ou Velo Acher. Autrement dit, si j'étudie ce nom-là, et ça c'est en réalité la formule générale, je peux dépasser tous ces secrets d'Égypte qui m'enferment dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Alors il y a un programme énorme. Qui est capable de transcender la nature? Celui qui l'a créée. Seulement celui qui a créé la chose peut dominer la chose, on est d'accord? Comment est-ce que je peux savoir que c'est Dieu qui a créé le monde? Non, ça c'est... S'il n'avait pas le pouvoir de changer la nature en Égypte, je n'aurais jamais pu croire que c'est lui qui a créé le monde. Prouve-moi que c'est toi le créateur du monde, eh bien je vais te le prouver. Je peux transformer l'eau en sang. Je peux amener des degrés qui n'existent même pas dans ce monde. Ils ne sont pas logiques. Et comment tu peux faire ça? Ben pas justement, parce que c'est moi qui ai créé tous ces degrés-là, donc je les domine. Donc sur la carte d'identité d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est écrit? Non, pas créateur du monde. Celui qui vous... Non. Qui a fait? Anochi, Adonai, Elohecha, Asher, Hosseticha me'eretz Mitzrayim. Toi, sur ta carte d'identité, si tu étais à sa place, tu aurais dit, moi, créateur du monde. Lui, non. Moi, libérateur d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande épreuve. Créateur du monde, tu peux me dire ce que tu veux, j'étais pas là pour voir. Mais sorti d'Égypte, j'étais là, j'étais témoin. Tu m'as fait sortir d'un contexte qui n'est impossible de sortir. Il y a fait. Mais il y avait nos parents, il y avait l'histoire. Dans la création du monde, il n'y avait personne. Tes parents, ils n'ont pas menti. Chaque père a dit à son fils, qui 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 a dit à monsieur. Et toi, tu vas continuer à dire. C'est pas un mensonge. Alors qu'au moment de la création du monde, il n'y avait personne. Donc, comment Akadosh Baruch Hu se présente à nous? Au moment du don de la Torah, pas « Je suis l'Éternel qui a créé le monde. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu m'as vu te faire sortir d'Égypte, c'était il y a 50 jours. Maintenant, je suis en train de te donner la Torah, c'est le même. Il n'y a pas de Dieu. Celui qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est celui qui te donne maintenant, quoi? Ton identité. Maintenant, je te ramène à toi, parce que je suis libéré, donc maintenant je te donne ta vraie identité. Avant, tu étais soumis à l'identité du Pharaon. Donc de l'Égypte, donc du bélier, donc de l'égoïsme, donc des lois naturelles. C'était enfermé. Maintenant, tu comprends que tout est possible. Donc, tu es devenu Israël. Ok.
Et quand Hachem se révèle à quand il donne la Torah et quand il nous libère, c'est Yud Kevavke.
Exactement. C'est la même chose. Anochi Yud Kevavke Elohecha Asher Hoseticha Me'eretz Mitzrayim. Il nous dit même qui nous a fait sortir d'Égypte. Quel est le nom qui nous a fait sortir d'Égypte? Il le rappelle même au moment du don de la Torah. D'accord?
La capacité de modifier la nature, de la transformer. Okay. Il ne l'a pas donné dans péché. L'homme, il n'a pas reçu cette capacité-là.
Non. Non. Tant que tu n'es pas sorti d'Égypte, la preuve c'est que toute la vie est descendue en Égypte. Il faut comprendre que le fait que la Torah me raconte une histoire où le peuple d'Israël qui n'était pas encore un peuple, c'était un ensemble d'individus. Tout est rentré en Égypte, tout a convergé vers l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce monde-là, si tu n'as pas une clé pour le comprendre, il va t'amener où? En Égypte. Naturellement, tu vas rentrer dans une fermeture. Je parle clairement ou vous avez du mal à comprendre ce que je raconte? Vous avez l'air d'en tirer des poissons, là. C'est sûr que c'est le mois de Hadar, il y a encore le fils du poisson jusqu'à la fin de la semaine, mais vous comprenez ou pas? Ça veut dire que si tu laisses faire, quelle est ta destination? Égypte. Automatiquement. Tu ne peux pas faire autrement. C'est la nature. Tout va se pousser vers la nature. Si tu sors d'Égypte, tu vas comprendre quoi? Le mouvement inverse. Donc depuis la création du monde, toute la nature, toute la création, elle allait vers où? Vers l'Égypte. Elle descendait. Toute la création, y compris Israël, concept qui n'existait pas encore, tout est descendu en Égypte. Donc l'Égypte, c'est la partie la plus lointaine, la plus basse de la création. À partir de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Tu remontes jusqu'à la Géoula.
C'est quoi la partie la plus
haute d'Israël, alors? Kadosh Baruch Hu, lui-même. Son porte-parole, c'est Israël. Mais est-ce que vous avez compris qu'on s'est éloigné jusqu'à l'Égypte? On ne peut pas s'éloigner plus que l'Égypte dans ce monde. Du concept d'Akadosh Baruch Hu, l'antithèse d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est l'Égypte. Donc sortir d'Égypte, c'est nous rapprocher de plus en plus du concept premier. C'est-à-dire? C'est énorme. Quel?
Il existe des hommes qui n'ont pas d'existence.
Non, ça n'existe pas. En Adam, en Tzadik, Afilou, Ba'ar, et Tashriya, Ate, Atov, et Loïcheta. Il n'y a pas de Tzadikim, même, qui n'ont pas de ratage. Le ratage égale Égypte. Parce que la nature est comme ça. Elle t'amène vers ça.
Quand on reçoit la Torah, on reçoit notre identité.
On reçoit en réalité notre identité.
C'est pas une nature, ça?
C'est la vraie nature d'Israël, oui, qui est en train d'être retrouvée.
Il y a deux natures, alors?
Non. Il y a tout simplement ta nature, mais qui est cachée dans la nature du monde. Et qui a en réalité la mémoire divine dans ce monde, qui est en réalité la vraie nature, celle d'Israël. Alors tu peux dire qu'il y a deux natures. Il y a la nature naturelle et il y a la nature divine. Et Israël est porteur de la nature divine. Mais qui était encore dans la nature naturelle tant que nous n'étions pas sortis d'Égypte. Comme toi aujourd'hui. Tu as ta vraie nature, mais est-ce que tu l'as retrouvée un jour? Ça dépend si tu es sorti de ton Égypte. Mais elle est à toi. Ça s'appelle la Ségoula. C'est tes capacités que tu as reçues de base. Ils sont en toi. Pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Tout est en toi. Sors d'Égypte, tu te retrouveras toi-même. C'est tout. Tout ce que je viens de vous dire, c'est en réalité de nous retrouver soi-même, donc d'aller vers qui? Vers toi. Comment on dit ça dans la Torah? L'air, l'écha. C'est tout. Va vers toi. Donc toute la Torah, c'est une grande histoire d'aller vers soi. C'est tout. Première rencontre entre l'infini et un homme, Abraham Avinu, premier mot qui lui dit, l'air, l'écha. Toute cette création du monde, c'est retrouve-toi. Ça va te prendre du monde, du temps. Mais tu vas te retrouver. Quand est-ce que je sais qu'Abraham s'est retrouvé? Quand c'est sorti de lui, qui? Israël. Tant que Israël n'est pas sorti de toi, tu t'es pas encore retrouvé. Alors je vous pose la question maintenant, ce n'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez trouvé Israël qui est caché en vous? Je vois qu'il y a une marloquette. Si vous avez trouvé, Baruch HaShem, si vous n'avez pas encore trouvé, vous avez ce Pessah pour faire un effort supplémentaire, pour trouver la vraie valeur, le vrai point de lumière, la vraie essence, la vraie étincelle qui vibre en vous et qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on la laisse sortir. Exactement. Parce que chaque année, tu changes, et donc tu dois retrouver encore une parcelle beaucoup plus profonde. Même si tu crois que tu as déjà trouvé Israël l'année dernière, tu vas retrouver l'Israël qui correspond à cette année. Quel, d'abord, il était avant. Exactement, trouver ton point divin. Ta neshama, ton essence divine. Pas ta petite volonté à toi. Okay? Si je te donne maintenant quoi faire, tu vas te mettre immédiatement en position allongée. D'accord? Tu vas rentrer dans ton lit, tu vas te couvrir, machin, c'est tout ce qui passe. Avec un petit téléphone, tu vas faire comme ça. Tu vas faire travailler tes pouces. Quel?
Comment on sait comment on va trouver notre point?
Bonne question. Tu commences d'abord, tu as des signes dans ce monde. D'abord, tu es joyeux. Tu es tout le temps dans une simcha. Tu n'as plus d'angoisse, tu n'as plus de peur. Ce n'est pas le cas. D'accord ? Vous avez tous encore des angoisses, des peurs. Donc, il y a encore du travail, il y a encore du boulot. Toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces dérangements, c'est parce qu'on n'est pas encore complètement sorti de ça. Normalement, tu ne devrais plus avoir toutes ces notions qui ne sont que des terroristes. Ce sont des notions terroristes qui viennent te terroriser pour ne pas faire ton vrai travail.
Pour retrouver ça, c'est que dans ça.
Exactement.
Tu
es en train de rapetisser ce que je suis en train de te dire à des notions qui sont tellement petites, c'est dommage. C'est dommage. Garde les choses à un niveau énorme. Arrête de les rentrer dans des tiroirs. Quand tu seras dans cet état-là, je vais te dire plus, tu n'as même plus besoin de quoi que ce soit. Parce que tu vas être tellement heureux, tellement plein dans ta vie, que tu vas commencer à diffuser en fait Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors ne crois pas que l'idéal, c'est être enfermé dans une yeshiva. C'est un apprentissage pour pouvoir sortir et donner ta Torah ailleurs. Imagine-toi que tous les rabbanim restaient dans leur yeshiva et n'allaient pas dispenser, profiter la Torah. Chas de shalom, on sait où. Quel? Avec le?
Le Klafradak et
Chas. Quel? Exactement. Tu peux appeler ça comme ça.
Et tu l'as trouvé, il a grand le fait, il y a tout sur Klafradak. Ou sur les deux paroles, je peux le dire.
C'est là. Ah ben alors une fois que tu as trouvé ça, tu commences à agir avec. C'est ta carte, en fait. Tu as une carte secrète quand tu joues un jeu de cartes. Tu as ta carte, celle qui va te permettre en fait de gagner. Une carte forte. Qu'est-ce ton point fort? Donc tu vas commencer à l'utiliser dans ta vie. C'est tout. Est-ce que c'est compris ça? Ce sont des points, dans la chassidut, on va appeler ça Nekuda Traor, Nekuda Tova. Sur Rabbi Nachman, c'est Nekuda Tova. Nitsot Shebalev. Peu importe, il y a plusieurs noms à ce degré-là. Dans la Kabbalah, c'est Goula. Et c'est toujours la même chose, c'est un petit point lumineux qui est à l'intérieur de ton être, qui demande qu'à sortir, et Léat, il attend, il a une patience énorme. Il y a déjà 20 et quelques années, 30 et quelques années, 50 et quelques années, 3 Gilgoulim plus 50 années, 200 Gilgoulim. Et cette point de lumière, il se dit, bon, j'attends encore, il va sortir, ben, il va t'acheter. Un jour, je vais être libéré. Et ça, c'est faire sortir l'Israël d'Égypte. Donc, en réalité, elle est où l'Égypte? C'est nous-mêmes. Et si cette année, j'arrive à sortir le point lumineux de Yoël, eh bien, j'ai libéré Israël de Yoël. Baruch HaShem. Et là, je peux commencer à servir à Kadosh Baruch Hu d'une manière qui est... avec une vitesse incroyable, avec une force de parole qui peut changer mes élèves, mes amis. Pourquoi il y a des gens qui ont une force dans la parole et d'autres qui n'ont rien? Il y a des gens qui parlent, personne ne les écoute. Il y a d'autres qui parlent, waouh. D'où ça vient? Quand il y a un poids dans les mots. Et comment je sens ce poids? Combien ça mesure un aleph? Combien ça mesure une parole? Est-ce que ça a un poids? Est-ce que tu peux mesurer? Tu as une balance pour mesurer ça? Eh bien, c'est toute une force, c'est un souffle, une vibration, une couleur. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter ou je vous parle chinois? C'est clair, d'accord? Ça c'est du chinois, alors je reviens. Il y a des gens qui ont une force au niveau du verbe. Quand ils parlent, on les écoute. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont une certaine assise, un certain charisme, une certaine force. Qui, lorsqu'ils parlent, tu te dis, ça c'est du lourd. Mais quand il y a un autre à qui tu ne donnes pas cette valeur-là, il est en train de parler, tu dis, ah, celui-là, quand il dit, il faut enlever au moins 90% de ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce que justement, il n'a pas travaillé dans sa vie sur sa parole. Il ne fait pas attention aux mots qu'il sort durant sa vie. Il fait du lachonara sans arrêt. Il maudit, il insulte. Okay? Tout ça, ça détériore le poids de son verbe. Quelqu'un qui garde son verbe, qui garde son poids, et qui ne fait pas de zera le batala. Zera le batala, c'est pas seulement en bas. C'est pas de la semence. Ça aussi, c'est de la semence. Quand je parle, c'est de la semence de vie. Est-ce que je donne du poids à mes paroles? Ou est-ce que je raconte n'importe quoi? Plus tu es respectueux des valeurs d'en haut, plus ton poids va avoir du poids. Ta parole va avoir du poids.
Vous dites qu'on écoute, c'est Hachem qui écoute ou c'est la personne?
Même la personne.
Ah non, moi je pense pas trop.
Tu peux penser, c'est bien.
Bah, celui qui parle mal et tout ça, il va plus se faire écouter que celui comme ça, et qui parle qui dit des gros mots, mais il fera justement tout ça.
J'ai pas compris ton. J'ai pas parlé de ça du tout.
Ouais, mais c'est un
j'ai peu... pas parlé de ça. J'ai dit juste que quelqu'un qui protège.
Dans sa famille, celui qui parle, qui protège pas et qui parle fort et qui est comme ça, il peut écouter.
Pas du tout. Merci. Pas du tout. Il sait pas écouter du tout. D'ailleurs, il termine seul sa vie. Ce sont des gens qui ne réussissent pas réellement parce que justement, finalement, tout se sait. Et donc tout le baratin qu'il aura dit dans sa vie, en fait, finalement, c'est du grand vide.
Aux yeux
non, même aux yeux des hommes, t'inquiète pas. Les gens qui font du lashon hara, ils finissent toujours seuls. Tu sais pourquoi? Parce que le jour où tu fais du lashon hara sur lui, il se dit quand il n'est pas avec moi qu'il est avec l'autre, il parle de l'autre. Et quand il n'est pas avec l'autre, il parle de l'autre. Donc tout le monde le laisse seul.
Mais
c'est la même chose, la même chose. La même chose. C'est exactement pareil. Quand tu respectes ton verbe, tu respectes le divin qui est en toi. Quelle est la différence entre toi et les animaux? La parole. C'est tout. Donc si tu respectes ta parole, tu respectes en réalité l'identité qui a été donnée à toi en tant qu'homme, qui n'a pas été donnée au chien. Si tu deviens un chien et tu aboies quand tu parles, tu as perdu ton degré d'homme. Alors peut-être tu vas avoir des copains, mais comme un chien. C'est tout. On ne va pas te respecter. C'est vrai? Quel?
Là, qui va tout ça? C'était déjà une séparation par rapport au bélier. On voit que c'est un bélier qui vient à la place de
l'État. Quel? Exactement.
Une séparation, là, c'est...
Tout à fait. Tout à fait. C'est pas par hasard aussi qu'on doit sonner du chauffard avec ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est maintenant sonner du chauffard? Mais ça n'a directement pas de lien avec le coup, mais c'est lié. C'est qu'en réalité, je sonne de quoi? De moi-même. C'est-à-dire je me libère moi-même pour faire entendre le véritable son qui sort de moi, et non pas seulement une parole. Car le son du chauffard, c'est beaucoup plus fort qu'une parole. Donc c'est mon cri intérieur.
Donc ça veut dire que si vous n'avez pas sacrifié le bélier, ça aurait été l'homme qui aurait été sacrifié.
C'était justement une tmoura. C'était à sa place. D'ailleurs, tous les corbanotes, c'est comme ça. Ok.
Je vous que c'est avoir l'égoïsme, tu sais, mais aussi que c'était la liberté.
D'accord. Une fois que j'ai dominé ce bélier, je sors.
De base,
il est égoïste, et je dois justement dominer cet égoïsme, alors la Torah, elle va me donner quelque chose à faire réellement. Qu'est-ce qu'elle a donné au moment de la sortie d'Égypte à faire réellement, concrètement? Elle a demandé aux enfants d'Israël de faire quoi?
Non.
Quelque chose réellement. C'était le 10 du mois, c'était un Shabbat à cette époque-là. Non, avant. Non. Il y a fait prendre un bélier. Tous les enfants d'Israël ont reçu la mitzvah de prendre le bélier. C'était le 10 du mois, ça s'appelle Shabbat Hagadol. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce bélier? Non, tu vas trop vite. Il y a fait, mais on l'a attaché d'abord au pied du lit. Pendant combien de temps?
4 jours.
Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mercredi, il fallait faire la shrita. La shrita. Alors maintenant, je vous pose une question. Maintenant, on est un groupe de sorciers? On est un groupe de sorciers? Qu'est-ce que c'est que prendre un bélier? Non mais franchement. Et de l'attacher au pied de mon lit, maintenant pendant 4 jours. C'est-à-dire, tu es avec ta femme, et tu regardes le bélier. De temps en temps, tu vois ses oreilles comme ça, ok? Ben, il fait ses besoins devant toi. La chambre, je ne vous dis pas les odeurs. Mais c'est quoi ce bim? C'est quoi ça? En plus de ça, la veille de Pessah, tu dis ça à une femme. Beau, ouais, tu. Mais le premier Pessah, c'était ça. Non seulement ça, la sorcellerie continue. Le 14 au soir, tu prends le bélier, tu lui fais une shrita dans ta maison. Le sang gicle de partout. Tu prends les enfants, tous les garçons qui disent, viens ici, Moshe, non, viens ici, tu lui fais la brit mila. Tous les garçons, le sang qui gicle dans toute la maison, le sang du bélier, les cris, les enfants qui gueulent, la femme. Lâchez-moi. Okay. Je vous raconte l'histoire qui s'est passée réellement dans le pchat. Hein. Chérie, amène-moi du za'atar. La femme, elle est complètement affolée, elle sort, elle prend du za'atar. Du za'atar, c'est une herbe qui pousse en bas des murs de l'hysope. Il l'attache, il dit, donne-moi le sang de la brit mila, ramasse le sang du bélier, je veux les deux sangs en même temps. Imaginez-vous la panique dans la maison, c'est-à-dire un meurtre. Mais si tu sors pas de ça traumatisé, t'as rien compris. Les cris, les hurlements, les machins, les deux sangs sont mélangés dans une casserole. Le mec, complètement, alors il est ravagé le type. Il a pris le za'atar maintenant, il mélange les deux sangs. Et ouvre la porte. Il ouvre la porte, il commence à peindre les linteaux et les mezuzot avec le sang. Dis-moi, franchement, on l'enferme pas immédiatement? On l'enferme, hein? Pour moins que ça, on l'enferme. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans le plat. Maintenant, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que la Torah, elle vient nous raconter des histoires pareilles?
Non.
C'est quoi ça? C'est quoi tout ça? C'est bono shel olam. Ça, c'est pendant Pessah. Après, va venir Soukhot. Tu le vois courir dans la nature, quand même malade, en train de tirer des citrons par-ci, des machins par-là, et tout seul, il parle dans la maison. Bon. Je peux te faire un film d'horreur. Okay. La sorcellerie dans le judaïsme. Hein? Mais c'est quoi tout ça, la bouteille? Et vous le faites! La fête est terminée, vous êtes tous comme des fous, avec des branches, en train de taper par terre. Ah, rabbit, tu vois des gens en train de tirer, des gens sérieux! Des mecs sérieux! Ton rave! Il dit que mon arabe, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, j'ai trouvé 5 arabes, il faut que je tape le sol. Mais qu'est-ce qui t'a fait le sol? Pourquoi tu le tapes? Rabotel, tout le judaïsme, c'est pareil. Et tous les matins, des machins, des boîtiers, des trucs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si vous ne comprenez pas le sens profond de ce que vous faites, Rabotel, l'Égypte va être pour vous un rituel. C'est dommage. C'est dommage. Vous n'allez rien comprendre. Réponse. Prendre le bélier et l'attacher, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'attache en réalité? Qu'est-ce que c'est ce symbole? C'est le temps. C'est le temps, puisque le bélier, c'est le premier acte. Donc c'est la racine du temps. Donc en réalité, qu'est-ce que j'ai attaché? Le temps. Donc le temps est à ma disposition. Je ne suis pas serviteur de temps, mais je me sers du temps. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le bélier, c'était l'égoïsme. Donc qu'est-ce que je dois attacher en moi? L'égoïsme. C'est quelle main l'égoïsme? La droite ou la gauche? La gauche. C'est pour ça que j'attache tous les jours aussi 7 nœuds, ma main gauche qui représente l'égoïsme. Tous les jours. Vous croyez que c'est comme ça? Je dois dominer ce côté, sinon je suis foutu, parce que si tu es égoïste dans ce monde, tu ne peux même pas avancer. Et une fois que j'ai fait ça, je dois faire la Shrita le 14, la veille de Pessah. Pourquoi faire la Shrita? Qu'est-ce qu'on fait avec la Shrita? Hein? On se nourrit, donc tu te nourris de quoi? De l'animal, mais tu viens de te dire que cet animal représentait l'égoïsme. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges le temps, tu manges l'égoïsme? Bien fait. Ça veut dire qu'en réalité, une fois que tu as fait ce travail-là, tu le cachérises. Tu cachérises ces notions. C'est pas que tu les jettes. Tu as besoin du temps. Tu as besoin de l'égoïsme. Bien sûr, sinon tu n'existes pas. Si tu n'étais pas un minimum pensant à toi-même, tu meurs. Donc j'ai besoin de ça, mais à une manière bien mesurée. Donc je fais la Shrita. En même temps, je fais la Brit Mila. Qu'est-ce que c'est faire la Brit Mila? me laisser une ouverture dans mon corps. Je suis bloqué. Les gens qui n'ont pas de brit mila, c'est des gens qui sont fermés. Donc maintenant, je crée une ouverture. Maintenant, Akadosh Baruch Hu peut passer. Donc je prends le sang de la brit mila, qui est l'ouverture de moi-même. Je prends le sang de l'animal qui représentait l'égoïsme que je viens de corriger. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, tu sais maintenant, je vais peindre quoi? Eh bien, tous les passages de ma vie. C'est pour ça que je le mets à la Torah. Maintenant, je peux sortir. Et qu'est-ce que tu dessines en réalité? Quel était le dessin qu'on faisait? La lettre He. On a dessiné sur la porte la lettre He. Mais voilà. Parce que c'est ça qu'on a reçu. Chaque père a raconté à son fils, qui a raconté à son fils, qui a raconté à monsieur. Tout à l'heure, monsieur, il est sorti. Vous avez compris ça? Et donc, qu'est-ce que je viens de faire en peignant ma porte? La porte de quoi tu as peint? La porte de ta vie, d'entrée et de sortie de toi-même. De quel côté on l'a peint? Vers l'extérieur ou l'extérieur? Non, intérieur. Parce que toi, tu croyais qu'Akadosh Baruch Hu, c'était Batman. Il passait, il voyait le sang. Il n'en a rien à faire. Il sait exactement qui a peint, qui n'a pas peint. Tu crois qu'il a besoin de toi. Donc, pour qui tu as fait ça? Pour toi-même. Pour montrer que tu es capable de sortir, que tu veux t'en sortir. Tu étais khayal, toi. Tu étais combattant à l'armée. D'accord ? Tu étais dans une unité spéciale. Baruch HaShem. Mais c'est exactement ça. Tu veux t'en sortir, tu veux gagner, tu sais pourquoi tu te bats. C'est la même chose.
Pourquoi la lettre
H? La lettre H, c'est la lettre du passage. En réalité, on a une lettre qui est complètement fermée. C'est quoi cette lettre?
Chet.
Donc ça donnait Chamet. Et si je fais une petite ouverture dans ce Chet, j'obtiens la lettre H. Donc Chamet est devenu Massa. C'est les mêmes lettres. Le même et le tzadik existaient dans le Chamet et dans la Massa. La seule différence, c'est le Chet est devenu He. Vous êtes avec moi? C'est tout. Combien j'ai perdu ou combien j'ai gagné entre le Chet et quelle valeur numérique? Et le He? 5. Donc en réalité, j'ai gagné 3 degrés. Qu'est-ce que c'est que ces 3 degrés? C'est l'équilibre. L'équilibre dans ce monde, c'est les 3. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc je suis sorti, je peux sortir grâce à cet équilibre-là, ce qu'on appelle Tiferet. Et c'est pour ça que Tiferet, c'est Cholam dans les voyelles, et que Cholam, c'est en réalité la Geoula. C'est tout. C'est de la Kabbalah. C'est bien. Donc c'est le chiffre 3, c'est ce que tu dois se rappeler. Gemara Shabbat 85, le peuple d'Israël s'appelle le peuple du 3. On a reçu la Torah le troisième mois. Hop, par le troisième fils. Nous sommes 3. Cohen, Lévi, Israël. Tout est 3. Shabbat, c'est 3. 3, c'est Oudot. 3 lettres. Tout est un secret de 3. On appelle ça Am Telitaï, le peuple triangulaire. Trois fers, trois cerveaux. Quel?
Trois cerveaux d'équilibre.
Il y a fait. Donc c'est quand tu es équilibré que tu peux sortir.
Et le E, c'est le Dalet Vav aussi?
C'est un Dalet, c'est un Yud ou un Dalet, c'est un Vav. Ça dépend. Hein, comment tu l'écris. Oudi ou Do, c'est ce que tu dis dans le Lecha, Do et Di. Lecha, Do, Di. C'est des secrets, Rabotai. C'est pas mon bien-aimé, le Khadoli, l'Ikrat Kala. C'est Do et Di. Mais bon, on peut pas tout faire sur un pied. Même la matza, quand vous la cassez avec des lettres. C'est des formes. Okay? Le Rav Naon peut-être pourra vous dire un petit peu plus après. Au niveau des kavanot de la matza que vous cassez à Pessah. C'est bien. Vous écrivez des lettres, en fait, sans vous le savoir. Ce sont des codes, Rabotai. On n'est pas là pour faire des. Celui qui rentre la vérité le soir de Pessah, ça dépend les communautés, il devient fou aussi. Il voit des gens autour d'une table qui font une thérapie de groupe. Personne mange. Pendant des heures. C'est un non-juif, il devient fou. Il dit, mais quand est-ce qu'on mange? Il dit, d'abord on parle. Nous, on parle beaucoup. Et en plus de ça, on lève des trucs, des os, des morceaux des salades, des œufs, des plateaux, on les met au-dessus de la tête. Mais c'est quoi ce peuple de sorciers? Tu sers des morceaux de vin, tout le monde se met comme ça pour boire. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Vous êtes fatigués, les mecs. Hein? La semaine dernière, on était tous à la synagogue, on entend un nom, tout le monde. On dirait des fous, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fous, ils sont fatigués, ces gens. Mais c'est la même chose. Tout ça, si tu ne comprends pas les secrets de tout ce qu'on est en train de faire, imagine-toi le judaïsme, comment ça devient, Chas v'Shalom. Mais n'importe quoi! N'importe quoi! Un jour, je vous raconte, j'étais dans une yeshiva de Mekoubalim, et j'ai eu l'impression que j'étais dans un monde supérieur. J'étais avec mon loulav. Et j'ai senti à un moment donné, pendant que je faisais les akafot, des tremblements magnifiques! Je croyais que j'avais déjà atteint le Olam Haba. Finalement, c'était le ventilateur. Le loulav s'est coché dessus et j'ai commencé à trembler. Il m'a éclaté le loulav. Ça veut dire restez sur terre, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça t'a plu ça, hein? Ça va te rester. Des fois tout le cours il disparaît, sauf l'image de la petite histoire. C'est incroyable ça, c'est comme ça que ça marche dans ce monde. Les gens ils aiment les histoires, ils ont besoin d'histoires. On n'a même pas commencé le cours avec vos questions. Okay? Et la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Donc, nous n'avons que 10 minutes. Est-ce que je continue ou je vous laisse encore questions-réponses? Moi, c'est vous. Hein? Up to you. Trois. הרב קוק זצ"ל אומר על חודש ניסן של גאולת ישראל ממצרים שהוא יישאר לעד האביב של העולם כולו. Le Rav Kook, numéro 3, nous dit que la sortie d'Égypte restera à jamais, jusqu'à l'éternité, le printemps du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, c'est le code de la libération. Si tu as compris ce code, eh bien, les nations du monde vont se servir de la libération d'Israël pour s'en sortir elles-mêmes. Exactement. Pourquoi le pharaon a poursuivi les enfants d'Israël une fois qu'il les a lâchés? Il a fait, mais oh, il leur disait, mais moi aussi j'ai envie de me libérer, pourquoi vous sortez seuls? Vous croyez qu'il est... Il veut les tuer, il veut machin, il dit, enseignez-moi comment sortir d'Égypte. Mais, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas s'exprimer, il vient avec ses chevaux, avec ses machins, du mec, il dit, bon, la prochaine fois, si Dieu veut, pour l'instant, sort. Ça veut dire qu'à la fin des temps, les goïms veulent aussi sortir de leur Égypte. Et quelle est la sortie d'Égypte des goïms? Soukot. Pendant la fête de Soukot. C'est-à-dire que c'est leur Pessah à eux. Mais nous, on est sortis d'Égypte, donc on est l'exemple en réalité. Quand on va appeler une libération quelconque aujourd'hui, comment on va l'appeler? Le printemps. Bizarre. Vous avez entendu parler du printemps arabe? D'où est venue cette expression? Du Rav Kook. Ils savent même pas, personne ne le sait d'ailleurs. Quand vous allez dans une famille française et on vous dit « elle a fait le nettoyage du printemps », de quoi elle parle? De l'ex-Pessah, parce que avant d'être chrétien, ils étaient... juifs, donc il leur reste quelques petits trucs. À Soukot, qu'est-ce qu'ils parlent? Des rameaux. Il leur reste des petits souvenirs, ils ne savent pas ce que c'est. Eh bien, c'est des morceaux d'herbe, ils ne savent même plus ce que c'est. Mais c'est la même période. À Hanouka, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument des veilleuses dans leurs fenêtres. Ils ne savent pas d'où ça vient. Mais en réalité, c'est ce qu'il leur reste comme mémoire de ce qu'ils étaient quand ils étaient Israël. Avant de changer et de devenir chrétien. Pourquoi la chrétienté, elle existait?
Au début, oui, mais
c'est exactement pareil. Mais d'où ils ont tout ce qu'ils ont reçu? C'est la racine. C'est la racine à cette époque-là. Oui. Et ainsi de suite pour toutes les choses. Okay. Donc en réalité, Aviva Olam, qu'est-ce que ça veut dire Aviv? Un printemps. D'accord? Si vous partagez le mot en deux, Aviv, c'est Av Yudvet. c'est-à-dire
Non.
Le Av, le papa des 12. Autrement dit, c'est le premier mois de l'année. C'est le papa des 12 mois. Donc on l'appelle Chodesh Ha'Aviv. D'accord? Et Pessah doit toujours tomber au printemps. Obligé. Et les nations du monde, ça peut changer. Hein. Chez les musulmans, par exemple, le ramadan, ça peut être en hiver, en été, au printemps, ce que tu veux. Chez nous, Pessah, c'est toujours au printemps. Obligatoire. Pourquoi? Parce que le temps doit marcher avec la notion. Quand tu fais quelque chose dans ta vie, fais-le dans un sens approprié. Je parle aussi de la météo et je parle aussi de la notion. C'est pour ça que c'est pour ça que l'endroit naturel pour fêter, c'est Israël. Quand tu es dans la souka avec moins 14 et il neige dehors, tu n'es pas dans la nature. Okay. Ici, un mois avant Chag HaSukkot, la nature te demande, enlève-moi les branches. Enlevez-moi les hétéroguimes parce que c'est trop lourd. La nature elle-même, elle te demande. Ça veut dire que tu vis naturellement. C'est pas anti-nature. Quel?
Je croyais qu'on devait dépasser justement la nature.
Bien fait. Comment je dépasse la nature? En écoutant ce qu'elle est en train de te dire, parce que elle, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que fait un arbre? Il pousse vers quoi? Vers le ciel. Ça veut dire, il nous dit, sans nous dire, mais il faut l'entendre parler. L'arbre, il dit, arrêtez de me laisser dans la terre. Moi, mon but, c'est de monter vers le ciel. Et c'est pour ça qu'on est considéré comme un arbre. Qui est Adam, et Hassadé. Sois comme un arbre. T'es planté sur la terre, on est d'accord. Mais t'as un seul but, c'est de relier le ciel. Donc tu dois devenir vert. Donc qu'est-ce que c'est le vert comme couleur? L'équilibre. C'est tout. C'est ça. Le vert, c'est l'équilibre. Donc, Kheruta Olam, c'est la liberté du monde. Brichato, c'est... Tout est clos. Éclos, on dit comme ça, en français?
Oui.
C'est bizarre, c'est aussi un fermé. Éclos, éclos. Top. Donc, quand vous entrez dans la nature au printemps, qu'est-ce que vous voyez? Les fleurs, les odeurs, les parfums, il y a tout qui se mélange. Et tu ne poses pas la question, quel rapport entre le parfum et la fleur et le champ qui est jaune, et vert, et bleu, et rouge, et coquelicot. Et Baruch HaShem cette année, c'est une bracha. Okay. Et qui continue. Regardez. Il y avait une île dans la Kinéret qui est en train de disparaître. Une île en plein milieu de la Kinéret. Maintenant, elle est en train de disparaître tellement la Kinéret est montée. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu autant de pluie en Eretz Israël. C'est énorme. C'est grâce à qui? Grâce à tout ce que vous faites. Parce qu'ici, la pluie ne vient pas gratuitement. Elle vient parce que les enfants d'Israël sont méritants. Donc vous avez un mérite de ça. Et donc le monde est en train de monter. De monter. Quand? À Nissan. Nissan, c'est l'élévation du monde tout entier. Ça commence? Ce programme-là, il commence vendredi soir qui vient. C'est un bon programme là. Hein. À partir de ce vendredi soir, vous devez sentir que vous êtes en train de flotter. C'est-à-dire que vous repassez en fait le film de votre propre libération. Parce que ce qui s'est effacé à l'époque se repasse. C'est la même énergie. Elle circule maintenant dans l'univers. Est-ce que tu es capable? Et je pense que cette année vous allez un petit peu plus la capter. Vous êtes en Israël, Pessah, ou vous êtes en Galoute? Alors, Bezrat Hashem, ceux qui seront en Galoute, donnez ces enseignements dans vos familles. Parlez de votre libération, de maintenant, de la différence entre ce que vous avez ressenti quand vous étiez là-bas et ce que vous sentez quand vous êtes ici. Alors, c'est vrai qu'ici, tu ne te rends pas tellement compte. Mais quand tu vas aller là-bas, tu vas voir la différence avec soi-disant tes copains, tu n'auras plus rien à leur dire. Tu verras qu'ils n'ont aucun rapport avec toi. Tu as changé complètement. Même physiquement, ils vont te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est l'air que tu respires. Tu es un autre. c'est tous les mêmes degrés. C'est pas que tu vas pas avoir des copains. C'est naturellement, tu vas sentir un décalage total. Décalage. Si tu es dans une ville de stress, Strasbourg. Maintenant, tu es sorti dans la liberté. Ça, c'est le secret. Donc, faites ce travail-là. Vous allez être avec de la famille, vous allez être avec des amis, vous allez être avec des gens qui sont autour de vous. Ils veulent comprendre. C'est pas juste, on fait quelques paroles, allez, si Dieu veut, l'année prochaine, allez, Agada de Pessah, c'est fini, l'Agada de Dalton. Tagada, Tagada, voilà les Dalton. Et qui c'est qui libère la deuxième partie, qui c'est qui termine, les quatre vers. Au fur et à mesure, tu vois que la table se vide. Tiens, après tu restes seul en train de chanter Hadgadia comme un âne. Tiens, vous connaissez tout ça, c'est pour ça que vous rigolez. Je sais ce que vous passez. Et si Chas Veshalom vous avez, je ne sais pas moi, l'Eurovision en même temps, oh, pendant le Seder, c'est terrible. Comment on va faire? On laisse la télé allumée, on fait vite le Seder. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Sortez d'Égypte réellement. Utilisez ce Pessah comme le premier Pessah de votre vie. Faites cette Kavana. Je serai avec vous, si vous voulez, au niveau de la pensée. J'aurai la Kavana d'être avec vous, Bezrat Hashem. Et ayez la Kavana d'être avec moi. Et Bezrat Hashem, vous allez voir la force que vous allez avoir. Parce que quand vous êtes seul, vous ne comprenez pas qu'il s'agit ici d'un tissage au niveau énergétique, au niveau de la pensée. Donc pensez que vous êtes avec vos rabbanim d'ici. Pensez que vous êtes avec le peuple tout entier dans un mouvement de libération totale. Nous sommes à la veille du dévoilement du Mashiach, Rabotai. C'est plus comme avant, c'est fini. Ça va très vite maintenant. Réveillez-vous, et bien, Bezrat Hashem, nous allons tous goûter de cette lumière infinie dans notre monde. Toda Rabba. Thank you.